Bonjour à tous, voici l'épisode numéro 6 des méthodes de Jazz en Provence. Aujourd'hui, la communication. Alors, ce volet sur la communication et le prochain peuvent être considérés comme une finalité dans l'approche que je propose. Je pense souvent à la phrase d'un de mes amis musiciens « La musique ne peut commencer que lorsqu'on s'est débarrassé de tout le reste ». En effet, en dehors du premier épisode sur la musique libre, qui donnait un avant-goût d'une certaine liberté, toutes les méthodes précédentes, nécessitant un certain travail pour les acquérir et les utiliser, ne visaient principalement qu'à une seule chose, gagner en liberté pour pouvoir exprimer ses sentiments et communiquer avec les autres. Alors, parlons d'abord de la communication et de l'interaction dans le jazz. D'abord, d'une façon très générale. Dire qu'il faut communiquer et interagir en musique, c'est un euphémisme. La musique est par essence un langage, et un langage est fait pour communiquer. Néanmoins, lorsqu'on observe des musiciens de l'extérieur, on peut constater que l'interaction n'est pas toujours si présente que ça. Évidemment, ça commence par l'écoute. On ne peut pas parler ou répondre à quelqu'un qu'on n'écoute pas ou qu'on ignore. Le premier exercice, ça pourrait être tout simplement de regarder ou encore mieux d'écouter du jazz et petit à petit d'essayer de comprendre quelles sont les interactions qui se produisent entre les musiciens. Elles peuvent être de plusieurs ordres. Si on regarde, on fait attention au regard, aux postures. En effet, la gestuelle, la position qu'on adopte par rapport aux autres peut en dire long sur l'attention qu'on porte à l'un ou à l'autre. Il y a aussi les consignes que l'on donne, les 4-4, retour au thème, triple queue, on y reviendra. C'est peut-être le plus facile à observer, surtout dans une époque où le regard a pris le pas sur l'oreille. C'est difficile pour beaucoup de gens d'écouter un podcast, par exemple, plutôt que de regarder une vidéo. Malheureusement, nous sommes dans une société ou une époque qui est basée avant tout sur le visuel. Mais pour un musicien, c'est l'écoute qui devrait être privilégiée. Pour avoir joué avec des musiciens non-voyants, on apprend beaucoup avec eux de ce point de vue-là. Le constat, on va dire, c'est que, par exemple, lors des candidatures au stage d'été, il m'arrive de recevoir des vidéos de musiciens qui sont en groupe. Souvent, on y voit des musiciens qui sont chacun le nez dans leur partition ou leur tablette, qui sont concentrés sur leur grille ou leurs accords sans jamais lever les yeux vers les autres. Alors, le cerveau est ainsi fait que la lecture absorbe une grande partie de l'attention. Si vous ajoutez à ça les problèmes d'instruments ou de doigté, c'est vrai qu'il ne reste pas grand place à la communication. Avec l'habitude, on peut faire le même constat d'ailleurs en écoutant seulement de l'audio. Nous avons déjà parlé de ça, et encore une fois, si le travail a été bien préparé en amont, ça devrait être différent. La première méthode de communication serait donc d'arriver en ayant fait le travail nécessaire afin d'être plus disponible pour échanger avec les autres. Alors, parlons de la communication. Pour plus de clarté, on va distinguer la communication et l'interaction qui sont deux choses différentes. La communication, ça concerne les échanges entre les musiciens qui vont déterminer certains choix musicaux, par exemple. L'interaction, elle, sera purement musicale, et ça, nous en parlerons dans le prochain épisode. C'est juste un choix sémantique, afin de clarifier les choses, on pourrait les inverser ou utiliser d'autres mots, c'est pas très important. Donc aujourd'hui, on parle de communication. Il y a en gros trois types de moyens de communiquer entre les musiciens. Il y a le regard, les gestes et la voix. Vous utilisez sûrement déjà ces trois types de communication, ou un des trois. Prenons quelques exemples. Avec le regard, on peut proposer à un musicien de commencer à jouer après une intro, de prendre un chorus quand on a fini le sien, de reprendre le thème, de se recaler en fronçant les sourcils, de passer en walk alors qu'on est en blanche, etc. C'est le mode de communication le plus courant dans beaucoup de styles de musique, y compris même la musique classique. Les gestes, eux, ils sont plus courants dans le jazz car il y a des codes établis. On va lancer un 4-4 en montrant 4 avec la main, reprendre le thème en mettant l'index en l'air ou sur le front, faire une triple queue en montrant 3 avec les doigts, etc. On peut aussi mettre un pouce vers le bas ou vers le haut pour suggérer à un musicien de baisser ou de monter son volume. Je joue souvent avec un bluesman américain, et dans le blues, le frontman a l'habitude de démarrer un morceau sans même dire aux autres musiciens de quoi il s'agit, il se débrouille. Et ben, quand le guitariste connaît pas le morceau en question, tout en jouant, il lui montre avec ses doigts les degrés des accords, en même temps qu'il joue lui-même, et tout ça en public. Donc déjà, il faut intégrer qu'on a le droit de le faire, c'est la première chose. Mais on en revient évidemment à la disponibilité. Si tout le monde a le nez dans sa partition ou sa grille, personne ne verra le geste ou le regard. Donc à minima, il faudra regarder au moment où ces informations sont susceptibles d'arriver, par exemple en fin de chorus, en fin de thème, ou à la fin du morceau, par exemple. Mais comme nous avons décidé dès le départ que nous jouons sans lire, c'est déjà beaucoup plus facile d'être aux aguets. Donc, on a vu le regard, les gestes, et maintenant la voix, elle permet d'interpeller quelqu'un qui ne regarderait pas à ce moment-là. Ça peut être très utile, mais avant tout, il faut aussi accepter qu'on a le droit de parler ou d'échanger en jouant. Un guitariste est perdu dans les accords, par exemple, le bassiste peut s'en approcher et lui dire les fondamentales ou les accords plutôt que de le laisser dans l'embarras. Tout le monde est perdu, c'est pas grave. Il suffit que quelqu'un compte 1, 2, 3, 4 et on repart en haut de la grille. Personnellement, je considère que parler un maximum est une méthode à part entière et je favorise, notamment dans le cadre de l'étude, les musiciens à parler, y compris pendant une prestation. Parce qu'une fois brisé ce tabou, on envisage les choses un peu différemment. En plus, le public apprécie beaucoup de voir les musiciens communiquer. Ceci étant dit, je vais maintenant dire tout le contraire de ce que je viens d'expliquer. Le plus important, encore une fois, c'est l'écoute. Et dans l'absolu, aucun des moyens de communication qu'on vient d'évoquer ne devrait être nécessaire. Pensez encore une fois à un musicien non-voyant. Alors reprenons quelques exemples et voyons pourquoi la communication, au sens où nous l'avons définie, ne devrait pas être nécessaire. Qui prend le premier chorus après le thème ? Si celui qui a fait le thème, sans rien demander à personne, embraye sur un chorus, tout le monde l'entendra. Et donc personne va démarrer lui-même un autre chorus. C'est d'ailleurs souvent ce qui se fait, naturellement. Qui prend le prochain chorus ? Normalement, dans un chorus bien construit, il y a un début, un milieu et une fin. On entend donc très bien que celui qui fait le chorus a fini, et donc on va changer de soliste, vu qu'on est à la fin de la grille. Donc il suffit que quelqu'un d'autre se lance dans un chorus. Rien n'impose de démarrer sur la première mesure, on a tout le temps, d'autant qu'un chorus bien construit doit se démarrer tranquillement. À moins qu'on se passe le relais en pleine énergie, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent, malgré que ça arrive de temps en temps. Il peut arriver, évidemment, que deux musiciens démarrent en même temps un chorus. Dans ce cas, évidemment, l'un des deux lâche l'affaire et puis laisse l'autre poursuivre. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on fait les jams en ligne où les musiciens ne se voient pas. Ça se résout toujours à l'amiable, en général. Est-ce qu'on fait des 4-4 ? Alors, après que tout le monde ait eu la parole et la possibilité de chorusser, et quand je parle de tout le monde, ça inclut le bassiste et le batteur, on repart pour une grille. En général, c'est le soliste qui a fait le thème qui le reprend à la fin. Donc on entend très bien s'il reprend le thème ou s'il improvise. S'il improvise, naturellement, c'est qu'on est parti pour des 4-4. Mais est-ce que ce sont des 4-4 ou des 8-8, par exemple ? Alors, patience, il suffit d'attendre la quatrième mesure. Si le soliste s'arrête, c'est que c'était bien des 4-4. S'il continue, a priori, c'est que c'est des 8-8. Ou 12-12, évidemment, si c'est un blues. Est-ce qu'on fait une triple queue à la fin ? À ce moment de la fin du thème, on doit être particulièrement en alerte. C'est le soliste qui joue le thème qui décide. Une triple queue, ça s'entend. Donc, s'il l'a fait, on le suit. Et s'il ralentit pendant la seconde, c'est que c'était pas une triple queue, c'était une double queue. Est-ce qu'on poursuit une longue fin après le dernier thème ? Encore une fois, si le soliste continue à jouer, on va pas l'abandonner. Bien sûr, on continue. Ça peut être parfois la section rythmique qui s'arrête pas, et dans ce cas, c'est le soliste qui va également poursuivre. Donc, en résumé, on a coutume de dire qu'on joue avec ses oreilles. Voilà comment les musiciens devraient communiquer entre eux avec leurs oreilles. Donc, ce que nous avons expliqué dans la première partie, utiliser le regard, les gestes et la voix, sont bien des méthodes qui sont très bénéfiques et indispensables dans un premier temps pour initier et faciliter cette communication. Mais il est souhaitable que ça devienne de plus en plus naturel grâce à l'écoute et grâce à la disponibilité de chacun au sein du groupe.